La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous. Camus l'a toujours dit, il a été un enfant heureux. Ce n'est qu'au lycée qu'il a découvert sa différence, celle de la classe sociale de sa famille et de sa mère qui faisait des ménages et lui offrait à Noël des cadeaux avant tout utiles. Même dans le milieu germano-pratin qu'il a fréquenté adulte, Camus ne s'est jamais considéré comme un homme arrivé. Il a toujours été en marge d'une manière ou d'une autre et si sa pensée fait aujourd'hui de nombreux adeptes, elle est toujours jugée trop tiède par beaucoup d'autres. Alors nous avons parcouru dans notre premier épisode la biographie et singulièrement l'enfance de Camus, accompagné par Vigiel Tanase. Et nous poursuivrons cette série demain en évoquant le rapport de l'écrivain à l'Algérie. Ce sera dans l'épisode 3 de cette série avec Martine Mathieu Job. Et puis le dernier numéro sera consacré à la politique, selon l'auteur de La Peste. Il sera également question de théâtre, tout cela grâce à Jean-Yves Guérin. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer l'œuvre d'Albert Camus à travers les carnets qu'il tenait, qui lui servaient aussi de laboratoire d'écriture, nous sommes en compagnie d'Agnès Spiekel, qui a dirigé avec Anne Proutot l'ouvrage collectif « Lire les carnets d'Albert Camus », c'est aux éditions du Septentrion. Elle a également co-dirigé « Le cahier de Lerne » consacré à l'écrivain et philosophe en 2013, et puis on lui doit enfin l'édition de la correspondance « Albert Camus-Louis Guillou » aux éditions Folio Gallimard.
J'ai toujours pensé que tous les personnages d'un écrivain représentaient une de ses tentations. Pour moi, un écrivain, c'est une vitalité. Quand je dis écrivain, c'est parce que je suis écrivain. Je devrais dire un artiste, c'est une vitalité. L'écrivain, par conséquent, en est une. Une vitalité, c'est évidemment une force de vie multiforme qui peut prendre plusieurs pentes, qui est tentée par tout. Eh bien, je ne peux pas vous dire lequel de mes personnages peut être considéré comme un de mes porte-paroles. J'ai l'impression que je les suis tous, même ceux qui peuvent paraître moins sympathiques que les autres.
Albert Camus, interrogé en 1957 à l'occasion de la réception de son prix Nobel. Bonjour Agnès Spiekel.
Bonjour.
Alors si Camus est, comme il vient de le dire en archive, présent dans tous ses personnages, on pourrait presque en conclure qu'il se livre lui-même dans son œuvre. Diriez-vous que c'est une œuvre de l'aveu ?
Je dirais que c'est lui qui vous donne raison, dans un premier temps. Dans les toutes premières pages de ses carnets, mai 1935, il a 24 ans, il écrit « À mauvaise conscience, aveu nécessaire, l'œuvre est un aveu, il me faut témoigner. » Alors, j'ai repris cette phrase et je me suis dit « Mais aveu, dans le langage courant, c'est devenu l'aveu d'une faute. » Mais quand c'est lié à témoignage, « L'œuvre est un aveu, il me faut témoigner », aveu prend peut-être un autre sens. Cette mauvaise conscience, dans le paragraphe précédent, il dit « C'est lié à la reconnaissance ». La reconnaissance de tout ce que son passé lui a apporté de sensibilité, en même temps qu'une mauvaise conscience d'avoir quitté ce milieu. Et il me semble que aveu a, en même temps que le sens habituel de l'aveu d'une faute, l'idée de reconnaître. Et donc l'aveu n'est pas si loin que ça du témoignage. Et j'ai pensé à l'ancien sens de aveu qui a donné le métier d'avouer, c'est la reconnaissance de quelqu'un pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a fait. Et il me semble donc que c'est aveu, pourquoi pas, mais certainement pas confidence, certainement pas autofiction comme de nos jours, mais ce lien subtil de aveu et témoignage sur lequel je pense Camus réfléchira pendant toute sa carrière.
Donc cet aveu, ce serait d'avouer sa culpabilité d'une trahison qui serait une trahison de sa mère, de sa famille, de sa classe sociale. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avouer ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à avouer qui serait plus cachée chez Camus?
La trahison, on peut toujours se demander pourquoi, dans les marges du premier homme, à trois reprises, il parle de Jacques Cormeris comme d'un monstre. Or, Jacques Cormeris n'a strictement rien de monstrueux au sens où nous l'entendons. Et dans une des trois occurrences, il est dit très clairement que c'était cette monstruosité était de s'être éloigné de ce qui était le sens de la vie incarné par sa mère. Cela dit, des culpabilités, Camus en a bien d'autres. Quand on lit les carnets, qui sont absolument pas un journal intime, mais dans lequel il est au cœur, hein, c'est une écriture très personnelle, en même temps que de réflexion, et vous l'avez dit, laboratoire de l'œuvre, bien sûr qu'il y a d'autres culpabilités. Alors, j'en citerai deux très différentes. La culpabilité d'avoir été, même s'il s'en défendait, dans des positions de moraliste qui faisaient de lui quelquefois un maître à penser. Sur le plan beaucoup plus personnel, la culpabilité vis-à-vis de Francine, en particulier au moment où elle était très mal dans les années 50, et on reparlera bien sûr de la chute, et d'autres culpabilités dont les brouillons, et j'ai eu la chance de travailler sur les brouillons du premier homme, dont les brouillons témoignent abondamment. Camus n'est pas quelqu'un qui a bonne conscience de tout parce qu'il a réussi. Au contraire, il ne cesse de s'interroger, s'interroger sur d'éventuelles impostures entre ce qu'il serait, entre ce qu'il est et ce qu'il écrit.
Donc, il ne se veut pas un héros, peut-être contrairement à d'autres.
Absolument pas. La position héroïque n'est pas la sienne. Quand il parle de héros ou qu'il reconnaît comme héros dans ses ouvrages, le héros de la peste, ce n'est pas le docteur Rieux, c'est Grand. Celui, Joseph Grand, ce petit gratte-papier qui essaye d'écrire, c'est lui, dit Camus, le véritable héros de la peste. Quant aux autres, ceux qui sont en avant, qui sont les personnages de premier plan, ils cherchent tout simplement à être des hommes, des saints sans Dieu, mais à être des hommes, à faire leur métier.
Un héros peut-être aussi, non? Ce qu'on a beaucoup dit, en tout cas ces derniers mois.
Bon, voilà, et je crois que là, Camus serait assez d'accord, et même très d'accord avec cette définition-là du héros, mais en tout cas pas la position héroïque.
Mmh. Est-ce que c'est une œuvre du secret, alors?
Pas du secret volontaire, mais oui, du secret, dans le sens que je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement pudique et réservé, malgré son exubérance et sa joie de vivre, son exubérance méditerranéenne, mais du secret aussi à cause de, et on l'a entendu dans la première citation, à cause de tout ce qu'il met de lui-même, mais pas directement, encore une fois, pas sur le mode de la confidence, dans ses personnages. Et c'est vrai que c'est fascinant d'interroger comme cela, par exemple Meursault, mais aussi Rieux, et puis Clamence, et puis bien évidemment. Mais ça, c'est autre chose.
Le personnage du premier homme.
Jacques Cormeris, oui.
Quand même, on peut dire que là, il s'avoue vraiment quand il écrit le premier homme, puisque le premier homme, c'est quand même presque lui.
Oui, alors, tout l'intérêt, c'est de voir qu'il a pris le détour de la fiction. Mais bien sûr que c'est lui. Cela dit, il a créé un personnage, hein, Jacques Cormeris, et dont on ne cesse de se demander pourquoi J.C. Jacques Cormeris, comme Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est tout cela? Et là, il est évident que le fait de n'avoir pas l'ensemble de cette œuvre, puisqu'il est mort avant de l'avoir terminée, nous laisse avec beaucoup plus de questions que de réponses.
Alors cette œuvre de Camus, Agnès Piquel, il faut d'abord dire qu'elle se déploie dans divers genres. C'est important de le noter parce qu'il y a le roman, le théâtre, l'essai, on est dans la philosophie, mais on est aussi évidemment dans l'art et la littérature. Est-ce que c'est important pour comprendre Camus de comprendre que c'est par tous ces canaux-là qu'il exprime ce qu'il a à dire ?
Oui, il dit dans une interview à propos du théâtre, mais pas seulement, que au point de départ, il y a chez lui une idée, et suivant les images qui lui viennent en tête, cette idée va donner un roman, une pièce de théâtre, un essai, parce que les images ne sont pas les mêmes. Il part des images qui naissent en lui. Et c'est très fascinant de voir que ce n'est pas la forme qui est première, c'est l'idée, et la forme vient ensuite, suivant la manière dont ça se passe à l'intérieur de lui. Et je pense qu'il a vraiment appris, et volontairement appris à maîtriser ces différents genres dans sa période, avant même ses premiers essais, parce qu'il y a les essais philosophiques, mais aussi les essais lyriques, comme Noces. On le voit qui apprend le métier d'écriture, hein, la magnifique thèse de Jacqueline Lévy-Valency, Naissance d'un romancier. On le voit tâter de plusieurs formes et d'apprendre son métier. Alors, bien sûr, il n'a pas écrit beaucoup de poésie, mais il a une prose éminemment musicale et poétique. Donc, pour moi, il est aussi poète, même si ça n'est pas la forme canonique. Et je crois que cette multiplicité vient du fait de vouloir prendre tout ce qu'il a à dire, prendre tout ce témoignage par des facettes multiples.
Donc vous dites bien qu'il n'y a pas vraiment en tant que tel de poésie chez Albert Camus. Est-ce que c'est parce que pour Camus il y aurait un rejet de l'art pour l'art ? Est-ce que Camus doit obligatoirement finalement s'engager d'une manière ou d'une autre dans chacun de ses écrits et ne peut pas se contenter de l'esthétique de la beauté ?
Alors, dans les discours autour du prix Nobel, il le dit très clairement. Oui, il rejette l'art pour l'art, mais pour autant, il n'est pas pour l'art engagé. Il dit qu'il n'aime pas les œuvres engagées, qu'il aime les hommes engagés, mais pas les œuvres. Et ça n'est pas du tout la même chose. S'il rejette la poésie de l'art pour l'art, c'est une forme de poésie très très précise qu'il rejette. Mais la poésie de René Char, pour lui, il est de plein pied avec elle. Et dans ses essais poétiques, je pense en particulier au texte en prose, petit poème en prose de La postérité du soleil, c'est lui qui les écrit, même si René Char y met sa patte après la mort de Camus, c'est véritablement une écriture de poète.
Alors quelle serait la poésie qu'il rejetterait vraiment ?
Alors, celle que vous avez vous-même nommée, l'art pour l'art. La poésie tour d'ivoire, la poésie qui cultiverait la forme, la beauté de la forme pour la beauté de la forme.
Je cherchais un exemple, mais vous n'allez pas en donner.
Ah, mais si, je suis 19e-iste, allez, Théophile Gautier, si vous le voulez absolument, voilà.
Mais pourtant, il y a de la sensualité aussi chez Camus, du plaisir justement à la beauté, à l'appréciation, comme Théophile Gautier sans doute, d'un beau tableau, d'un beau paysage, d'un beau sentiment.
Mais je crois que Théophile Gautier est un très grand artiste, Camus aussi. Donc la beauté, il la perçoit et il la crée. Camus, effectivement, aime la beauté, mais il dit, je ne sais où, qu'il s'enchante de certaines formes très, très classiques de vers, telles que ceux qu'il a appris quand il était au lycée. Donc, il n'est pas réfractaire à la poésie, il rejette une certaine conception de la poésie.
Alors donc, du théâtre, du roman, de l'esprit, et puis les carnets.
Oui.
Alors, parlons de ces carnets. Est-ce que ça fait partie de l'œuvre ? Est-ce que c'est l'une, justement, de ces ramifications ?
Ah, ça fait complètement partie de l'œuvre pour moi. Ramification, je ne sais pas si j'irais ça, mais en tout cas, une sorte de soubassement. Quand il le commence, il a 24 ans et il n'a pas encore la notoriété qu'il aura quelques années plus tard, mais il sait déjà qu'il veut être écrivain et que pour être écrivain, il faut qu'il mûrisse dans une forme d'écriture, tout ce qui bouillonne en lui, des projets d'œuvres, des notes de lecture, des maximes philosophiques, et quelquefois, mais c'est très rare, et c'est pas de l'ordre de la confidence, mais en tout cas des convictions. Je pense que si on veut bien connaître Camus, il faut lire les carnets. En plus, c'est extraordinaire parce que c'est souvent très lapidaire, mais c'est d'une beauté par moment extraordinaire. Il faut lire les carnets, surtout que maintenant, ils sont en folio.
Alors, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des impressions de voyage, des réflexions philosophiques. Il n'y a pas de volonté, en revanche, de faire vraiment un journal, de raconter sa vie au quotidien.
Non, pas du tout. Il y a quelquefois des dates, mais c'est plus des points de repère pour lui, parce que on le voit bien dans les brouillons du premier homme, il revient dans ses carnets quand il va puiser dans son expression, dans son expérience. Et donc, pour lui, les dates qu'il met, d'ailleurs, quelquefois, il y a des dizaines de pages sans date, ce sont des points de repère. Mais ce n'est pas du tout de l'ordre du journal. Encore une fois, Camus est extrêmement pudique, et on le voit quand quelquefois il y a des phrases plus personnelles, on le voit très bien, surtout quand, à partir de 1953, il sait qu'il écrira Le Premier Homme, c'est-à-dire une œuvre nourrie de son expérience, on le voit écrire à la première personne et immédiatement faire le transfert à la troisième personne, c'est-à-dire le transfert romanesque. Camus n'est pas quelqu'un qui dit « je », ou quand il dit « je », bien sûr, c'est le jeu de l'étranger, mais il ne dit pas « je », ou le jeu de Clémence.
Donc ça signifie que quand il est écrivain de ses carnets, il sait que ses carnets vont être lus par la suite, et donc il écrit aussi en se disant que peut-être cela servira pour la postérité, ou je ne sais pas, pour des chercheurs qui, comme vous, seraient intéressés par leur lecture.
Non. Je pense qu'au point de départ, il ne sait pas qu'il les publiera. C'est dans les années 50 qu'il se décide à mettre au net les premiers carnets, et c'est lui-même qui décide d'en préparer une publication. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas du tout le même statut que ce manuscrit du premier homme qu'il n'a pas le temps, bien évidemment, de terminer et de préparer pour la publication. Mais il a besoin, encore une fois, d'une sorte de trace de lui-même, de sa pensée, de son expérience, de ses lectures. Et les carnets sont d'abord cette trace-là de sa maturation. La maturation de lui et la maturation de son œuvre. Que petit à petit il se dit que cela fait tellement partie de lui et de son œuvre qu'il faut le publier, c'est évident. Mais ça n'est pas au début, je vais écrire des carnets qui seront publiés, ça sûrement pas.
Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre à la lecture de ces carnets du cheminement d'écrivain de Albert Camus, de la manière dont il imagine tel roman, puis tel autre, des phases éventuellement par lesquelles il passe? C'est évidemment très difficile de nous résumer ça, Agnès Piquel, mais je ne sais pas, quelques idées peut-être comme ça.
D'abord, Camus n'est pas un écrivain de la facilité. Si il s'agit de voir un peu la jeunesse de son œuvre, et c'est vrai que les carnets sont aussi cela, il y a une réelle difficulté chez lui parce que il n'est jamais satisfait. La peste, qui est quand même un immense succès, il trouve que c'est un mauvais livre, qu'il l'a raté.
Certaines personnes le disent toujours.
Ah mais c'est lui qui le dit, et sa correspondance, toutes ses correspondances le disent. La correspondance avec Guillou, il dit à Guillou, c'est un livre dont j'ai honte, je le laisse dans mon tiroir, et Guillou arrive à peine à lui dire, mais attends, c'est un très grand livre que tu as écrit. Bon, et c'est vrai pour d'autres choses. Quand il réussit ces magnifiques nouvelles de l'exil et le royaume, il dit, mais oui, mais il faut que je fasse des formes courtes parce que je ne peux plus faire quelque chose de long comme la peste. Je pense que c'est pas vrai du tout, qu'il est en train de manier sa plume de manière à maîtriser toutes les tonalités qui lui permettront de faire Le Premier Homme, mais Camus n'est pas un écrivain de la facilité.
C'est d'ailleurs un écrivain qui a pu dire ici et là et à certains de ses amis qu'au fond il n'avait pas écrit grand chose. Il le dit à la fin de sa vie quand il est en train de rédiger Le Premier Homme, c'est le début pour lui de son œuvre. Enfin, il meurt très très jeune et on peut imaginer que il avait en tête un certain nombre de romans, y compris après le Premier Homme. Donc il y a ce sentiment d'en être, je crois qu'il a dit, au tiers de son œuvre.
Oui, alors, à la fois il dit qu'il est au tiers du premier homme tel qu'il l'a conçu, mais ailleurs, et vous aviez raison tout à l'heure, il dit « mon œuvre n'est même pas commencée », c'est-à-dire l'œuvre où je suis vraiment moi-même, jusque-là, c'est-à-dire jusque la fin du cycle de la révolte, c'est-à-dire 52, il dit « c'était une sorte de chemin philosophique que je m'étais tracé, qu'il fallait que je fasse. Et maintenant, je commence la création libre. » La création libre, c'était Le Premier Homme. Mais effectivement, ces carnets fourmillent de projets.
Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Extrait du discours du Nobel en 1957. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Agnès Piquel? Vous l'écoutiez avec un évident plaisir.
Oui, j'aime vraiment beaucoup. C'est pas sa voix, mais c'est le timbre. Si, c'est le timbre. Et puis, c'est ces phrases extraordinaires et leur densité. On dit souvent dans Solidaire, solitaire, que la solitude, c'est le rejet, c'est triste, etc. Là, il le dit très, très clairement. L'artiste a besoin de solitude pour créer, et en même temps il ne peut créer que s'il reste complètement solidaire de ses semblables, et vous avez entendu avouer sa ressemblance, c'est reconnaître qu'il ressemble à tous, et pourtant pour être artiste il faut qu'il puisse travailler cette recherche de la beauté. Et je trouve que vous avez très 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 bien choisi cet extrait, parce que on a toute la tension, je ne dirais pas les contradictions, mais la tension inhérente à ce que Camus veut être en tant qu'homme et en tant qu'artiste.
Il parle un peu aussi de ce que c'est que d'être un écrivain et de comment on doit écrire un roman. Enfin, il réfléchit sur son art. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a chez Camus une sorte de théorie du roman? Est-ce qu'il est allé jusque-là?
Non. Non. Parce que on le voit bien. D'abord, il dit que l'étranger et la peste ne sont pas des romans, et que son premier vrai roman, c'est Le Premier Homme. Alors, comme il ne l'a pas terminé...
Alors, qu'est-ce que c'est si ça n'est pas un roman, l'étranger ou la peste ?
Des récits, mais qui n'ont pas l'épaisseur dans le temps et dans l'espace, l'épaisseur des personnages aussi que requiert pour lui un roman. Pour lui, le roman, c'est le grand roman russe, hein, Tolstoï, Dostoïevski. Et il sait très bien que l'étranger et la peste sont des récits destinés à illustrer, à donner une forme de concrétude à l'absurde et à la révolte. Mais pour lui, ce ne sont pas des romans. Donc, il n'y a pas de théorie du roman. En revanche, il y a une immense envie d'explorer toutes les possibilités du récit. Et je tiens toujours, quand on parle des romans de Camus, à rappeler qu'il y a aussi ces nouvelles, les nouvelles de l'exil et le royaume, qui sont des petits bijoux. C'est-à-dire que la forme narrative, il en explore beaucoup des possibilités.
Est-ce qu'on peut pas dire quand même qu'il y a la revendication d'un certain style, par exemple d'une certaine concision?
Excusez-moi. Non. Oui, bien sûr, les premières lignes de l'étranger, mais la concision,
C'est un cliché, ça. Oui, c'est Barthes qui nous a peut-être, avec son expression d'écriture blanche.
Et tout le monde dit l'écriture de Camus est blanche, mais dès l'étranger, on a des immenses phrases pleines de métaphores. Le moment du meurtre de l'arabe à la fin de la première partie, la superbe fin de la seconde partie et fin du livre, c'est déjà quelque chose de tout autre. C'est-à-dire que pour Camus, et c'est là que c'est un véritable artiste, la phrase, la syntaxe est complètement soumise à ce dont il s'agit. Et là, Sartre a très bien analysé dans son explication de son article Explication de l'étranger que l'écriture blanche, la juxtaposition, était très exactement la traduction stylistique du mode de rapport de ce Meursault qui est étranger à tout, la traduction stylistique de son rapport au monde et à lui-même. Mais dès que, par exemple, il coïncide dans le malheur ou dans le moindre malheur davantage avec lui, on a une espèce d'expansion de la phrase dès l'étranger. Alors je ne parle pas du premier homme.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, Agnès Piquel, c'est que ce qui compte pour Camus, c'est ce qu'il a à dire et que la forme dépend uniquement de ce qu'il a à dire. La forme se met au service du propos.
Vous ne croyez pas que c'est la définition de tout artiste, c'est de trouver la forme qui se soumet au propos. Dans une autre vie,
je sais pas, il y a des modernistes qui pourraient dire que la forme en elle-même est un propos, par exemple.
Oui, mais je vous citerai tous les grands artistes, ils inventent une forme pour ce qu'ils ont à dire. Allez, on va revenir au 19e siècle. Regardez Victor Hugo, il n'a jamais le même style. Et quand est-ce que Rimbaud devient Rimbaud? Le jour où il trouve, alors ça ne lui prend que quelques mois, le jour où il trouve la forme qui va donner des illuminations. Et c'est à ce moment-là qu'il est complètement Rimbaud. Quand est-ce que Proust devient Proust? Le jour où il comprend que c'est à la première personne qu'il doit parler. Et non pas comme dans la première version, il était à la troisième personne. Et quand il dit aujourd'hui maman est morte, c'est Camus. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Cette forme de la première personne change tout. Et correspond exactement à son propos. Tout grand artiste invente la forme de son propos.
Mais on a aussi des écoles, comme l'école du nouveau roman, à laquelle on a parfois associé, vous allez nous dire, évidemment, à tort, Albert Camus, qui peut-être voit les choses un petit peu différemment, Agnès Piquel, non?
D'abord, il ne relève d'aucune école, comme il ne relève d'aucun parti, mais je pense que la conception du roman qui gouverne le nouveau roman lui est assez étrangère. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que le nouveau roman? Quand on dit que Claude Simon est dans le nouveau roman, il y a une telle variété aussi chez Claude Simon. Bon, c'est parce que c'est un immense romancier. Donc lui aussi, il est passé peut-être par cette forme du nouveau roman, mais dès que son propos l'a exigé, il a fait éclater les limites.
Écoutant les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres. Que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais. Qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge. Qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses. Et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse.
Est-ce qu'on peut reprocher à Camus, je sais qu'on ne peut rien lui reprocher à Agnès Piquel.
C'est pas vrai du tout.
Par exemple, est-ce que on peut lui reprocher d'être parfois un peu trop allégorique, comme dans La Peste, où La Peste est évidemment une métaphore d'autre chose, une métaphore sans doute de la guerre. On a dit que c'était une métaphore un petit peu facile. Je ne fais pas forcément partie de gens qui soutiennent cette manière de voir les choses. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez du côté parfois un petit peu allégorique, parfois un petit peu démonstratif?
L'étranger et la peste appartiennent chacun à un cycle. dans lequel il s'agit de scruter une notion, l'absurde puis la révolte. Le récit, la forme narrative liée à cette démonstration soit de l'ordre allégorique, oui, à condition que l'on pense en termes d'allégorie vivante et non pas ce que l'allégorie ancienne pouvait avoir de plus figé. Il s'agit de montrer une facette de la condition humaine. Oui, cela dit, dans le corps même du roman, pour revenir à la peste, on s'aperçoit que bien sûr c'est beaucoup plus que la peste brune du nazisme, mais il y a cette scène extraordinaire entre Tarou et Rieu, où Tarou dit « la peste, on la porte tous en nous ». C'est-à-dire que le bacille de la peste, c'est pas des tyrans, c'est pas, on le porte en nous dès que l'on consent à la mort des autres. Alors à partir de là, si nous sommes tous des pestiférés, la signification de ce roman est tout à fait autre. Donc c'est une allégorie multiple.
Est-ce qu'il n'y a pas dans justement cette idée de mettre en scène l'absurde dans L'étranger, par exemple, quelque chose qu'on pourrait rapprocher de la manière dont Sartre le fait aussi, avec son personnage de Roquentin dans La Nausée? Est-ce qu'on peut pas retrouver une manière un petit peu similaire de faire pour ces deux personnes, ces deux écrivains qui vont tellement finalement se distancier l'un de l'autre?
Alors là, je suis complètement d'accord avec vous. On est à une période, quand ils écrivent les deux ouvrages dont vous parlez, où les philosophes, les écrivains, pensent que il faut recourir aussi à la forme narrative et à la forme théâtrale. C'est ce que fait Sartre, et au même moment, il commente, sans se connaître encore, l'un l'étranger et l'autre la nausée. Oui, il s'agit de rendre une notion quand même très abstraite, comme l'absurde, de la rendre palpable. Et quoi de mieux que le récit et la pièce de théâtre? Cela dit, ensuite, ils divergent, pas seulement sur le plan politique, ce qui amènera la grande brouille du début des années 50, mais aussi sur le plan de l'œuvre, encore que Sartre, faut jamais l'oublier, a continué à écrire autre chose que des sommes philosophiques.
Donc Camus estimait, par exemple, La Nausée, il trouvait que c'était un bon
ouvrage. L'article que Camus donne dans le journal Alger étudiant est positif, avec quelques réserves, mais c'est largement positif. C'est-à-dire qu'avant de connaître Sartre, il avait lu de très 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 près La Nausée, et il avait dit que c'est une œuvre très importante, et dans l'autre sens, inversement, Sartre avait commenté L'Étranger. Donc quand ils se sont rencontrés à Paris en 1943, d'une certaine manière, ils se connaissaient déjà.
Mais quand même, pour Camus, le grand romancier, c'est plutôt Malraux, c'est plutôt le romancier de la condition humaine. Donc finalement, c'est plutôt le romancier qui n'est pas philosophe, qui ne cherche pas à mettre en image une philosophie comme lui-même ou Sartre cherche à le faire.
Alors, attention, lui, il définit le rapport, il dit, on ne pense, mais ça c'est vraiment sa définition à lui, je suis persuadé que ça n'est pas celle de Sartre, ça ne pourrait pas être celle de Sartre. On ne pense que par image, si tu veux être philosophe, écrit des romans. C'est-à-dire que l'écriture des romans, c'est sa manière à lui d'être philosophe. Pour Sartre, ça passe éventuellement par le roman, mais ça passe aussi par l'être néant, par des sommes philosophiques dans lesquelles Camus ne se reconnaît pas. Autrement dit, Camus appartient à une tradition très française de la philosophie où les écrivains, je pense à Pascal, je pense à Montaigne, je pense à Diderot, sont à la fois philosophes et écrivains. Le garde Michard de mon enfance ne savait trop où les mettre.
Mais justement, alors Malraux, qui donc n'est pas philosophe, pourquoi est-ce que Camus le place comme ça sur un piédestal et en fait le grand écrivain, un des grands écrivains avec les écrivains russes?
Alors parce que justement, il a cette espèce d'ampleur de l'écriture romanesque que Camus sait reconnaître. Hein. Camus sait admirer même, et peut-être surtout, des gens qui ont une autre démarche artistique que lui. Pour quelqu'un qui veut être romancier, oui, Malraux... Mais Camus veut être Autrement, je dirais pas plus, autrement.
Parce que Camus fait la distinction entre le bon roman et le grand roman. Donc oui. le bon roman, c'est celui qui reconstitue le monde vivant avec le mélange d'absurdité et de cohérence qui lui est propre, c'est une citation. Et le grand roman ajoute à cela une réflexion sur son sens propre, donc une réflexion sur lui-même, ce qui pourrait être justement la couche philosophique, si je peux m'exprimer ainsi, que Camus et Sartre, par ailleurs, instillent dans leurs œuvres, que Malraux fait moins ou ne fait pas.
Je ne suis pas sûr que le roman qui réfléchit sur lui-même, ce soit celui qui ajoute, et c'est pas non plus ce que fait Camus, quelque chose de la philosophie. Je pense que Le Premier Homme correspond très exactement à cette définition, c'est-à-dire un roman qui s'interroge sur lui-même. Et c'est ça qui intéresse Camus quand il décide, voulant parler de son expérience, de ne pas écrire une autobiographie, mais d'écrire un roman. C'est un roman qui forcément donc doit s'interroger sur sa propre démarche. Et ça, c'est ce que fait Malraux. Mais c'est tout à fait différent de la démarche de, j'allais dire, l'illustration d'une notion philosophique telle qu'a été l'étranger.
Les notions d'absurde et de révolte dont j'ai parlé dans mon œuvre et dont on a parlé à mon propos sont des notions vécues pour moi. Je veux dire que, au fond, je parle de ce que tout le monde connaît. Et je ne peux pas parler d'autre chose pour la raison excellente que je ne me sens pas une sensibilité originale à part. Je me sens une sensibilité semblable à celle des gens qui m'entourent. Je ne me suis jamais senti séparé. En ce qui concerne l'absurde, c'est une expérience que tout le monde peut faire dans le tramway, dans un taxi. Enfin, c'est un sentiment de séparation et d'étrangeté que j'ai essayé d'analyser. Et naturellement, un sentiment ne peut pas tout recouvrir, on ne peut pas tout expliquer par ce sentiment. Et j'ai toujours fait la critique de ces impressions qui étaient les miennes, si bien que j'ai été amené à faire la critique de la notion d'absurde, bien que ce fût une notion profonde en moi, de même que j'ai été amené à faire la critique de la notion de révolte, bien que ce fût aussi une notion profonde en moi.
Cette notion d'absurde pour la littérature de Camus, Agnès Spiekel, en particulier pour l'étranger, est-ce que c'est le centre de son œuvre ?
Alors, d'abord, je voudrais redire qu'il conçoit un roman assez proche de l'étranger avant même d'avoir conçu ce cycle sur l'absurde. Et puis, petit à petit, cette notion d'absurde vient enrichir cette écriture de l'étranger. La suite de son œuvre n'exclut pas l'absurde. C'est-à-dire que la révolte ne dissout pas l'absurde. Il faut faire.
C'est la réponse à l'absurde, peut-être, la révolte.
Alors, c'est une réponse, mais ça ne le dissout pas. En revanche, Camus s'interroge sur ce qui fait la valeur. Une valeur de la vie, que l'on peut trouver, et donc qui peut donner aussi du bonheur, qui peut créer de la communauté, qui peut faire plein de choses, mais qui ne défait pas l'absurde. Mais ça n'est pas le fin mot de l'univers camusien, comme on a souvent envie de, enfin, on l'a souvent dit, au point de faire de lui quelqu'un qui de morose, etc. Non, pour lui, la vie, elle est pleine de saveurs et il faut la goûter. Et justement, le tragique, c'est que il y a la conscience absolue de cet absurde dont une des définitions est que il faut mourir.
Mais est-ce qu'il y a dans l'œuvre de Camus ou dans certains de ses livres une espèce de réponse à la question comment réagir à cette terrible absurdité de la vie? Est-ce que son roman donne des clés?
Alors, je ne sais pas si ce sont des clés, mais toute son œuvre est une immense tentative de réponse, ou plutôt tentative pour trouver des réponses à l'absurde. Non pas pour, encore une fois, pour l'éliminer, mais pour vivre. La question, c'est comment vivre. Rien n'a de sens, mais comment vivre? Qu'est-ce qui donne une valeur? Et comment fonder une éthique si rien n'a de valeur? C'est-à-dire que si l'absurde entraîne le nihilisme, c'est-à-dire la négation de toute valeur, alors
on ne peut plus construire d'éthique. Donc, comment articuler l'absurde avec la construction d'une éthique en évitant le nihilisme?
Alors c'est comment tout cela. Que nous dit Camus à ce sujet?
La révolte ensemble. Je me révolte, donc nous sommes cette idée de d'une communauté des hommes qui se lèvent et disent non ensemble à une situation qui détruit en l'homme ce qu'il a d'essentiel. Et vous allez me dire, le premier homme, ça n'est pas du tout ça. Si, d'une certaine manière, il s'agit de voir ce qu'il y a d'essentiel dans tous les êtres humains. Et c'est toute la réflexion sur les pauvres et sur ceux qu'il appelle sa tribu.
Mais donc, la révolte contre quoi exactement?
Alors, il y a une double révolte, et dans La Peste c'est très net. Révolte contre l'absurde philosophique, c'est-à-dire contre l'absurde de la condition humaine. Et révolte contre ce qui vient l'aggraver irrémédiablement, c'est-à-dire l'oppression et toutes ces formes de mal que l'homme peut faire à l'homme. Et il y a les deux.
Oui. Et puis peut-être aussi, pas forcément une révolte, mais l'idée de vivre pleinement. Et à défaut de pouvoir vivre le mieux, je crois que c'est une sorte de paraphrase de Camus que je vais faire là, vivre le plus.
Alors oui, vivre le plus, mais pas à n'importe quel prix. Oui, mais la densité, l'intensité, c'est très net dans un très très beau texte, Lettres à un ami allemand, qu'il écrit en 43-44 pour expliquer qu'au cœur de la violence que finalement il a choisi en entrant dans la résistance, il faut garder intactes les images du bonheur, parce que sinon, on devient semblable à ce que l'on combat. Donc, effectivement, il faut garder le sens de la beauté, le sens de l'amour, le sens de l'amitié, c'est-à-dire de tout ce qui, dans l'homme, est absolument essentiel et n'est pas directement dépendant de l'histoire, avec un grand H, et de son histoire, avec un petit H. Défendre cela dans l'homme.
L'absurdité est une thématique qui est souvent accolée à l'œuvre de Kafka. Est-ce que on peut mettre en parallèle l'absurdité chez Kafka et la question de l'absurde chez Camus, Agnès Piquel?
Alors, Camus admirait éperdument Kafka, éperdument. Et une admiration totale parce qu'il dit qu'il est allé jusqu'au bout de la notion d'absurde. Et pourtant, dans ce texte magnifique et qui est à la fin du mythe de Sisyphe, il dit finalement, il y a chez Kafka un saut, un saut métaphysique, parce que cet absurde est insupportable, et ce saut métaphysique, pour lui, c'est le passage du procès au château.
C'est presque un basculement dans le fantastique, enfin.
Pas dans le fantastique, parce que dans le fantastique, il l'a toujours été. Kafka, la métamorphose, d'une certaine manière, on peut dire que c'est fantastique. Mais dans la métamorphose et dans le procès, il n'y a aucune échappatoire à l'absurde. Jusqu'au bout, le destin de Joseph K. dans le procès est absurde. Dans le château, l'analyse de Camus est extraordinaire, parce que en même temps, il admire tout de Kafka. Dans le château, il y a quand même l'espoir que quelqu'un soit dans le château, c'est-à-dire que Dieu existe. Ce n'est qu'un espoir, et on sait très bien que K n'arrive pas dans le château, mais cet espoir s'ouvre. Et pour Camus, c'est la tentation de donner une réponse à l'absurde en disant « oui, il y a un sens, donc il y a une transcendance ». Et ça, lui, se refuse à le faire. Mais il dit pourtant l'image que Kafka donne de l'être humain est absolument bouleversante, donc immense. Immense respect.
Et ça se retrouve peut-être dans leur littérature. La littérature de Camus est une littérature extrêmement réaliste. Il y a quelque chose, on peut reprendre ce terme quand même d'écriture blanche, que Barthes a utilisé, qui veut quand même dire quelque chose. Il y a quelque chose de très temporel, de très séculier. Alors que chez Kafka, on est quand même dans une sorte d'au-delà presque mystique, non?
Je ne crois
vous
pas.
Vous allez me dire non. Mais maintenant, vous dites « je ne crois pas » pour changer.
Vous savez, quand on lit la métamorphose, c'est incroyablement réaliste. À part, vous allez bondir, le fait que Grégoire Samsa est transformé en cloporte, sinon le monde continue tel qu'il est. Et c'est ça l'extraordinaire force de Kafka. Alors, vous allez me dire, c'est pas du tout pareil chez Camus. Oui, peut-être, mais le réalisme est aussi grand des deux côtés. Et d'une certaine manière, il y a aussi une espèce de décrochage du réalisme. Je pense à l'extraordinaire scène du meurtre de l'arabe où on passe à une dimension complètement mythique avec le déchaînement des éléments, pluie de feu. On est dans l'ordre de la malédiction biblique. Mmh. Et bon, je ne dis pas que c'est un équivalent de Kafka, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que aucun de ces grands écrivains n'est rigoureusement dans le réalisme. Allez, à la Balzac, encore que Balzac est-il réaliste, je ne le crois pas, et pas seulement.
Est-ce que on ne pourrait pas citer aussi d'autres sources, d'autres inspirations dans les romanciers américains? Camus a peut-être lu quand même pas mal de romanciers américains, Agnès Piquel.
Tout à fait, oui. Il admet tout à fait qu'au moment où il écrit L'étranger, il est marqué par cette technique extrêmement proche du behaviorisme, c'est-à-dire bon, vraiment une technique des romanciers américains, mais il dit aussi qu'il s'en est éloigné, c'est-à-dire que pour lui, ce n'était pas une recette du roman. Mais il a une admiration pour ce type d'écriture parce qu'elle correspondait très exactement au projet de ces romanciers. Il admire Melville, il admire...
Il y a du Faulkner. Melville chez Camus ?
Je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais il admire éperdument Faulkner. Mmh. En tout cas, il y a là, pour lui, ils font partie de ces grands romanciers dont il cherche à atteindre l'épaisseur romanesque.
Au bout du pont, je pris les quais en direction de Saint-Michel, où je demeurais. J'avais déjà parcouru une cinquantaine de mètres à peu près lorsque j'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, mais sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un cri, plusieurs fois répété, qui descendait lui aussi le fleuve, puis s'éteignait brusquement. Le silence qui suivit dans la nuit soudain figé me parut interminable. Je voulus courir et je ne bougeais pas. Je tremblais, je crois, de froid et de saisissement. Je me disais qu'il fallait faire vite et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps. J'ai oublié ce que j'ai pensé alors. Trop tard, trop loin ou quelque chose de ce genre. J'écoutais toujours, immobile. Puis, à petits pas, sous la pluie, je m'éloignais. Je ne prévins personne.
La compagnie des œuvres sur France Culture avec cet extrait de La Chute de Camus lu par Georges Claes. Quel est l'enjeu de ce livre, Agnès Piquel? Vous ouvrez des yeux très ronds devant l'immensité de la réponse à apporter. Oui. Prenez-le par un petit bout.
C'est une immense réflexion sur la culpabilité et sur le jugement. Nous sommes dans l'ère du jugement et le jugement est mortifère.
Mais qui juge ?
Tout le monde. Tout le monde juge tout le monde. Le jugement dernier, il a lieu tous les jours, dit-il. Clémence le dit. Juge dans l'optique de que quelqu'un se sente condamné. C'est-à-dire que ce sont des jugements définitifs et mortels.
Donc c'est le juge pénitent, c'est-à-dire que en même temps que l'on juge, on fait semblant de battre sa coulpe, c'est ça ?
On bat sa coulpe pour que les autres avouent et puissent être condamnés également. Tout le monde juge et tout le monde est condamné. Mais celui qui règle le jeu, il se prend pour Dieu.
Donc c'est un héros de notre temps que ce Clément, c'était une expression notée d'ailleurs dans les carnets au début de 1956, ça a failli être le titre, je crois, de ce livre, La Chute. Donc c'est une critique de l'état d'esprit de son temps, peut-être des intellectuels de son temps. Peut-être de Sartre même.
Oui, oui, non, non, c'est dans les carnets, il le dit très clairement, qu'il s'agit des existentialistes, des sartriens, mais ça va bien au-delà. Bien sûr, hein, les juges pénitents, c'est ceux qui distribuent des bons points, des mauvais points sur les positions idéologiques. Mais ça va bien au-delà. Il s'agit aussi d'une réflexion sur lui-même et d'une volonté de sortir de cette ère du jugement et de ne plus mettre son œuvre à l'intérieur de ce système de jugement et d'être complètement du côté du témoignage et du côté du témoignage fondé sur l'amour. On revient à l'œuvre est un aveu, il me faut témoigner. Il y a dans la chute quelque chose de règlement de compte avec tout ce qu'il a été et fait avant, en même temps que règlement de compte. Il dit souvent se mettre en règle avec règlement de compte avec les intellectuels parisiens. Mais ça va bien, bien au-delà. Il s'agit aussi vraiment de lui-même et plus largement de qu'est-ce qui permet aux hommes de vivre ensemble. En tout cas, c'est sortir de l'ère du jugement.
C'est son chef-d'œuvre pour vous, La Chute ?
C'est une œuvre vertigineuse. Du point de vue de l'écriture, je l'ai enseignée, je ne sais pas combien de fois, j'ai toujours l'impression de redécouvrir un niveau.
C'est plus complexe, par exemple, selon vous, que L'Étranger ?
Alors, L'Étranger est incroyablement plus complexe qu'il n'y paraît. Vous voyez, c'est pas du tout la même écriture. L'ironie, comment mettre en relation l'ironie de La Chute et l'écriture de L'Étranger? Une partie de moi met le premier homme au-dessus de tout, une partie L'Étranger, une partie Noce, une partie La Chute.
Vous-même, vous vous projetez dans chacun de ces livres comme Camus se projetait dans chacun de ses personnages.
Je ne sais pas si je me projette, mais j'y trouve nourriture pour la réflexion, pour l'exigence et en même temps pour l'apport de la beauté. Tous ces livres m'enchantent à cause de cette beauté de l'écriture de Camus, dans toute sa diversité, ça je la maintiens.
Il y a quelque chose aussi dans l'incipit, dans les incipits, oh, oui. Qui sont particulièrement réussis.
Oui, mais ça je crois qu'il... je ne sais pas s'il les travaille aussi, comme disait Raymond Roussel, on a l'art de commencer, mais oui. Je crois que c'est un de nos très grands stylistes, et c'est pas par hasard qu'il admirait les stylistes du XVIIe siècle comme des modèles de la litote, hein, de donner le maximum avec le minimum de mots.
Oui. Trois phrases au début du livre suffisent à nous prendre. Notre plaisir est assuré, écrivait Barthes. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ce personnage de Clamence dans son errance dans Amsterdam? Est-ce qu'il y a là quelque chose de l'ordre du décor un petit peu mythique, presque mythologique, que Camus utilise là parfaitement?
Oui, bien sûr. Amsterdam et les environs d'Amsterdam, le Zuiderzee, deviennent des lieux mythiques, un enfer mou. Mais c'est, faut remarquer que Clamence commence dans un bar Mexico City des bas-fonds d'Amsterdam et termine dans sa chambre, où il est malade. Donc ce n'est pas une errance, hein, c'est une espèce de rétrécissement progressif peut-être et c'est ce que laissent entendre certaines des mises en scène, où il se prépare à repartir au Mexico City, puisque à l'évidence il refait la même chose, ce même travail de l'autre pour l'obliger à se reconnaître coupable et pouvoir se remettre en position de juge.
Quelque chose d'assez noir alors du coup dans ce livre.
C'est le livre le plus désespéré, puisqu'à la fin Clamence dit que jeune fille, jette-toi à l'eau, on l'a entendu tout à l'heure. Il sera toujours trop tard. C'est-à-dire la condamnation est définitive. C'est le livre le plus noir. Le jugement total, la condamnation définitive. Il n'y a aucun espoir, malgré par moments Clamence qui se dit mais enfin, il y a des moments pathétiques chez Clamence. Et pourtant, non, à la fin, c'est le jugement total, la chute définitive. C'est le roman le plus noir.
Alors on disait avant le début de cette émission, Agnès Piquel, que Camus, quand on fait des émissions sur Camus, on en fait un certain nombre, hein, sur France Culture, il y a toujours un grand engouement, et c'est vrai qu'en général, les auditeurs envoient des messages sur les réseaux sociaux aussi. Pourquoi, selon vous, y a-t-il ce rapport très très fort avec les lecteurs?
Alors, je crois que, bon, je laisse de côté l'œuvre et l'homme, cet homme extraordinaire, et en même temps le fait qu'il soit mort jeune, mais son œuvre, elle est variée et elle est dense. Et je pense qu'à une époque où les mots sont sont prostituées, la densité de la parole camusienne fait tilt. Les gens se disent là, il y a quelque chose. Même si il n'entre pas dans tout.
À l'ère du clash, il y a comme une boussole.
C'est pas une boussole. C'est pas une boussole. Camus ne nous donne pas des solutions. Mais Camus pose des questions, y compris dans ses romans. Il pose des questions et il les pose magnifiquement.
Merci beaucoup Agnès Spiekel. Pour aller plus loin, on peut se reporter à l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Anne Proutot, intitulé « Lire les carnets d'Albert Camus ». C'est aux éditions du Septentrion. On peut aussi se procurer le cahier de Lerne que vous avez co-édité avec Raymond Gay-Crozier. Tout de suite, la chronique.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et aujourd'hui, c'est Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire, qui vient nous rendre visite. Bonjour Étienne.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être là. Vous venez nous parler d'un livre de l'écrivain anglais Julian Barnes, L'Homme en Rouge. Il paraît en traduction française au Mercure de France. Mais qui est donc cet homme en rouge qui donne son titre à ce livre de Barnes?
C'est le docteur Pozzi, qui était un grand médecin de la Belle Époque et sur qui Barnes a entrepris une très belle enquête. Il faut dire que Pozzi est plus qu'un médecin. Avec des voyages à Venise, des amis dans le tout Paris, des conquêtes amoureuses, c'est un véritable personnage. L'homme était follement séduisant et séducteur, il était même surnommé l'amour médecin, car en ce temps-là, Paris avait beaucoup d'esprit.
Toujours, Étienne.
Et puis on découvre Pozzi et sa famille, Madame Pozzi, avec qui le docteur entretient une relation singulière, à la fois fidèle et rebelle, et puis évidemment leur fille, Catherine, qui deviendra la muse backstreet, en quelque sorte, de Paul Valéry, et qui a été elle-même un très beau poète, un auteur de vers magnifiques sous le nom de Karine Pozzi, poète qu'admirait Gide. Alors dans l'évocation de Barnes, on croit toute la petite société de l'époque, Robert de Montesquieu, Edmond de Polignac, Jean Lorrain, Oscar Wilde, tous ces personnages fin de siècle, à la fois raffinés et odieux, et que Huysmans a résumé dans son personnage de Des Esseintes. Ce sont tous des seigneurs à leur manière, brillants par leur vie, sinon par leur œuvre, et qui annoncent le monde de Proust. Un détail, cet ouvrage de Barnes est illustré par des portraits et des tableaux signés Tissot ou Sargent, mais encore plus insolite et amusant, il l'est par des vignettes comme on en trouvait à l'époque dans les tablettes de chocolat. Et on découvre donc qui étaient les figures de l'époque, des poètes, des jockeys, des actrices, des écrivains et à l'époque des personnages que côtoyait, fréquentait Pozzi. Dans cette étude incroyablement fouillée, très très dense, Barnes, qu'on a connu évidemment grand romancier, s'est effacé derrière l'érudit impeccable qu'il sait être. C'est absolument passionnant parce que c'est à la fois très loin et très près. Au fil du récit transparaît en fait l'intention profonde de l'écrivain. C'est une plongée dans une époque avec ses progrès scientifiques, avec ses arts, mais aussi le portrait d'une société chic qui partira en fumée dans l'incendie du bazar de la Charité et qui sera définitivement inhumée dans la boue de Verdun.
Alors est-ce que vous diriez que le dessein de Barnes, c'est seulement de faire de l'histoire littéraire ?
Pas tout à fait, parce qu'il y a une sorte de nostalgie qui transparaît dans ce texte, même quelque chose d'un petit peu tragique. L'homme en rouge est rythmé mystérieusement par un mouvement narratif de va-et-vient entre l'Angleterre et l'Europe. Il montre qu'il y a eu beaucoup d'échanges, évidemment. Pozzi, lui-même parisien bon teint, avait ses habitudes à Londres, notamment pour la confection de ses costumes. Oscar Wilde, vécu et mouru à Paris. Et le dandysme de Brummel avait ses turiféraires chez nous, de Baudelaire à Barbet. En fait, Barnes veut à la fois célébrer un homme fascinant, une époque éblouissante, mais aussi rappeler les liens affectifs, profonds, réciproques qui existent entre la Grande-Bretagne et le continent. L'auteur du Perroquet de Flaubert se sent une dette vis-à-vis de cette complicité intellectuelle et artistique qui a longtemps rapproché les deux entités. Et dans un aveu touchant, celui qui est maintenant un vieil homme, Julian Barnes, dit posément qu'il les croit menacés par le Brexit qui vient.
L'homme en rouge de Julian Barnes, traduit de l'anglais par Jean-Pierre Austin, c'est aux éditions Mercure de France. Merci Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire. C'était La Compagnie des œuvres, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet, Jacques Hubert. Demain, Martine Mathieu-Job nous parlera du rapport d'Albert Camus à sa terre natale, l'Algérie.